Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le podcast de Diabète 66. Le podcast de Diabète 66, c'est le podcast hebdomadaire qui décrypte avec vous l'actualité sur le diabète. Ce podcast vous est présenté par l'équipe médicale du service endocrinologie du centre hospitalier de Perpignan, dirigé par le docteur Muriel Bénichou, accompagné par les docteurs Amina Radaoui, docteur Nelly Montignera et docteur Céline Hyde.
Bonjour à tous, je suis le docteur Nelly Mortignera. Bienvenue dans notre nouvelle émission qui a pour thème « Comment éviter les problèmes de pied chez les diabétiques ». Donc nous allons démarrer, vous connaissez le principe, à chaque fois je répète les mêmes phrases. Nous avons reçu donc des questions, jeudi nous les avons traitées et aujourd'hui nous allons discuter sur le thème « Comment éviter les problèmes de pied chez les patients diabétiques. Donc, il faut savoir que le pied diabétique est une spécificité du diabète. Il constitue une des complications du diabète qui peut être d'origine neurologique, c'est-à-dire par l'atteinte des nerfs. C'est la neuropathie diabétique. Au niveau du pied, on aura pour conséquence la perte de la sensibilité au chaud, au froid, à la douleur. Ces sensations qui normalement protègent notre pied pour nous dire qu'il y a un problème. Ensuite, cette atteinte neurologique va entraîner des déformations au niveau musculaire et entraîner des pieds qui vont prendre des formes particulières, soit que la voûte plantaire va s'écraser, les orteils qui vont se mettre en griffe, l'hallux valgus, le gros orteil qui va s'écarter un peu plus que d'habitude. Et puis, à tout cela aussi, va s'ajouter des poussées inflammatoires au niveau des articulations des os du pied, et avec des micro-traumatismes qui, au cours de la reconstruction, vont avoir une forme anarchique et entraîner de plus en plus de poussées inflammatoires douloureuses, ce qu'on appelle l'arthropathie de Charcot, finir par l'arthropathie diabétique, et finir par à son stade ultime, ce qui a été et qui vous a été décrit déjà au cours de nos e-lives par le docteur Radaoui, le pied de Charcot qui est un pied neurologique pur. Ensuite, on peut avoir au niveau du pied diabétique une atteinte artérielle, c'est l'artérite aiguë ou l'artérite chronique du diabétique. C'est le diabète qui va favoriser le dépôt de cholestérol sur les parois des artères et contribuer à former des plaques d'athérome, des plaques de cholestérol qui vont obstruer le lit des artères. Et cette obstruction va diminuer la vascularisation au niveau des jambes et entraîner des problèmes caractéristiques avec des douleurs à la marche, des sensations de crampes dans le mollet parce qu'au cours de l'effort, il n'y a pas assez de sang qui arrive au niveau des jambes et celle-ci souffre. Donc, à ce moment-là, à son stade ultime, si jamais l'artère est complètement obstruée et qu'il n'y a plus du tout de vascularisation au niveau du bas du pied, on le perçoit d'abord par l'absence de pouls, la froideur du pied, et ensuite la gangrène qu'on appelle gangrène sèche. Après, les complications, on a dit neurologiques, vasculaires, on peut avoir des problèmes infectieux. Donc, une petite plaie peut passer inaperçue, ça peut être un ongle incarné, ça peut être une toute petite écharpe sur laquelle on a marché parce qu'on a marché pieds nus, et celle-ci va rentrer sous la plante du pied, l'infecter parce que nous ne regardons pas suffisamment sous nos pieds, et devenir une infection du pied, avec une plaie qui sera sale, qui va s'infecter, qui va donner une inflammation avec une peau luisante, une plaie putride, qui va sentir mauvais, nauséabonde, malodorante. Et celle-ci va se compliquer en local de ce qu'on appelle la dermohypodermite, ou en général, c'est-à-dire atteindre tout le reste de l'organisme par la septicémie. Et au sein du pied, si rien n'est fait, cette plaie peut évoluer vers la gangrène humide. Cette fois-ci, c'est une gangrène infectieuse, sale, avec des petites bulles d'air que vont libérer les bactéries, hein, jusqu'à entraîner la gangrène gazeuse. Et celles-ci aboutissent, comme la gangrène sèche, au stade ultime de la prise en charge, l'amputation de jambes. Donc, ces plaies, ces éléments-ci nous ont permis de répondre aux questions de Samira, Arnaud, Marie et Alice. Voilà les quatre personnes qui, au cours de la semaine, ont voulu savoir comment est-ce que les plaies de pied diabétiques se constituent et quelles en sont les conséquences. Voilà. Donc, Suzanne, Rachida et Mohamed, eux, ont surtout voulu savoir si, qu'on soit diabétique de type 1 ou diabétique de type 2, on peut avoir le même type de plaie. Donc, il n'y a pas de plaie pour les diabétiques de type 1 ni de plaie pour les diabétiques de type 2. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plaie, le pied diabétique, va compliquer un diabète de type 1 au bout de plusieurs années. Alors que dans le diabète de type 2, il peut être le mode d'entrée dans la maladie, le mode de révélation du diabète. C'est-à-dire qu'on a déjà un pied infecté et c'est au cours de la prise en charge de ce pied qu'on va découvrir qu'on a une hyperglycémie, donc qu'on est diabétique. Donc, dans le diabète de type 2, toutes les complications inhérentes au diabète peuvent être un mode de révélation de la maladie. Alors que dans le diabète de type 1, il s'agit d'un accident brutal, instantané, donc de ce fait, on ne démarre pas avec les complications du diabète. Les complications, on les voit venir quand on est diabétique de type 1, à la longue, au fur et à mesure de l'évolution de la maladie. Donc, voilà ce qu'il fallait dire à Suzanne, Rachida et Mohamed. Enfin, Amir, lui, a sollicité de savoir qu'est-ce qu'il fallait faire pour éviter les problèmes de pied, les problèmes de pied diabétique. Pour cela, on a des gestes de la vie courante à réaliser, des consultations chez des personnes qui s'occupent essentiellement du pied et également un suivi chez votre médecin traitant ou votre diabétologue habituel. Donc, les gestes de la vie courante pour éviter les problèmes de pied diabétique sont... comment est-ce que je vais dire ça ? Des éléments de prise en charge régulière, habituelle, des habitudes que vous devez prendre pour éviter qu'un problème de pied ne s'installe. Donc pour ça, il faut inspecter ses pieds tous les jours. Soit soi-même, et si on ne peut pas, par une personne de notre entourage. Et si encore on se retrouve seul, on peut utiliser un miroir, mettre le miroir au sol et mettre le pied au-dessus du miroir et regarder si on n'a pas un problème sous la plante des pieds. Il faut se laver les pieds tous les jours au savon et à l'eau. Et il faut bien sécher entre les orteils. Il faut poncer les zones de cornes, là où la peau est un peu trop dure, trop épaisse. Il faut la poncer, mais avec une pierre ponce douce. Et il faut le faire de manière régulière et appliquer une crème hydratante. Ça peut être les crèmes habituelles de tous les jours ou des crèmes spécifiques pour pieds. Hein, on peut trouver en pharmacie ou en parapharmacie des crèmes spécifiques pour pieds. Et sinon, la crème hydratante que vous mettez tous les jours sur le corps est bien suffisante. Simplement, vous allez graisser la face dorsale du pied, graisser la face plantaire, bien masser, mais ne pas graisser entre les orteils. Parce qu'en graissant entre les orteils, ça peut créer de la macération qui, elle, va favoriser l'apparition de mycoses entre les orteils. Les ongles doivent être limés, coupés, limés, légèrement arrondis sur les bords pour éviter que le bord saillant, quand il est coupé, n'aille blesser l'orteil d'à côté, surtout que dans la chaussure, le pied est un peu serré. Donc, on le fait avec une lime en carton, hein, en arrondissant bien les bords. On ne traite pas soi-même les corps, les durillons ou les ampoules. On n'utilise pas de produits coricides. Hein, tous ces produits qu'on vous dit de mettre pour enlever les corps et tout ça, ils sont trop agressifs sur la peau du diabétique, sur le pied du diabétique. Il ne faut jamais marcher pieds nus. Il faut porter des chaussettes en coton, qu'on doit changer tous les jours, qu'il faut porter de préférence de couleur claire, parce que comme ça, si jamais on a une plaie ou un problème sous la plante de pied, la tache que formera la saleté sur la chaussette va nous interpeller et va nous permettre d'aller regarder un peu plus de plus près ce qui s'y passe. Ensuite, il faut également mettre ces chaussettes à l'envers quand elles ont une couture. Il faut savoir qu'il y a des chaussettes pour diabétiques qui sont sans couture, qui sont vendues dans le commerce, et des chaussettes habituelles hein, qui ont une couture. Et cette couture-là, elle doit toujours être mise à l'extérieur. Donc on doit porter en fait ces chaussettes quand on est diabétique à l'envers. Donc je résume, port de chaussettes, on ne marche pas pieds nus, on porte les chaussettes. On porte des chaussettes à l'envers et de couleur claire. Ensuite, il faut changer les chaussettes tous les jours. Il faut les laver autour d'une température de 60 degrés pour qu'elles puissent éliminer les champignons qui peuvent s'y coller. Il faut choisir de porter des chaussures en cuir souple. Il faut les acheter en fin de journée, comme ça, au moment où le pied est un peu gonflé, quand on a pris l'œdème de toute la journée, c'est là qu'on va acheter sa chaussure. On l'essaie, on prend une chaussure avec une demi-pointure de plus, parce que très régulièrement, quand on est diabétique, on a à un moment donné besoin d'une semelle. Donc il faut qu'il y ait la place de la semelle et que le pied reste toujours bien installé dans la chaussure. Ensuite, il ne faut pas porter des chaussures à haut talon, donc le maximum c'est entre 3 et 4 cm. Il faut souvent contrôler ses chaussures en y mettant la main avant d'y mettre le pied pour aller chercher les petits cailloux, les petites saletés qui peuvent être dans la chaussure, bien les vider avant de les mettre pour qu'elles ne nous blessent pas les pieds. Ensuite, il faut surveiller l'usure des talons. Si les talons et les semelles s'usent, il faut les renouveler. C'est le moment de renouveler ses chaussures. Il faut préférer donc faire prendre soin de ses pieds par les spécialistes. Et vous savez qu'il existe des pédicures et des podologues qui sont spécialisés dans la prise, la réalisation des soins de pieds. Donc tout ceci sera prescrit par votre médecin généraliste ou votre médecin endocrinologue. Vous irez prendre soin de vos pieds chez le pédicure à la fréquence où les cornes et les ongles ont besoin d'être recoupés et reponcés. Donc le pédicure coupera les ongles, poncera les cornes, traitera les corps, les durillons, les ampoules et tout autre problème au niveau du pied. Le podologue, lui, vous irez le voir une fois par an pour qu'il fasse l'étude de la statique du pied, c'est-à-dire qu'il mettra votre pied sur un appareillage bien particulier qui permettra de regarder les zones où vous appuyez un peu trop et les zones où vous n'appuyez pas assez. À partir de là, ça lui permettra d'élaborer votre semelle et cette semelle permettra de répartir à nouveau les zones de pression pour que le pied soit bien installé et que les appuis soient bien équilibrés dans la chaussure. Il est aussi le podologue, responsable de confectionner des chaussures spéciales, les chaussures sur mesure, en cas de pied qui se serait un peu trop déformé. Donc voilà. Ensuite, en consultation spécialisée, donc chez votre médecin diabétologue ou votre médecin généraliste, chaque fois que vous allez le voir en consultation, il programme un temps pour regarder vos pieds. Il regarde déjà les chaussures que vous portez pour voir si elles sont de bonne qualité ou pas. Il regarde les chaussettes que vous avez mises, la couleur et si vous les avez bien mises couture à l'extérieur. Il va vous faire vous déchausser, retirer les chaussettes et regarder si vos pieds sont bien pris en charge. Donc il va regarder les ongles, voir si vous voulez couper de manière régulière ou pas, regarder entre les orteils pour voir s'il y a des mycoses, regarder les déformations pour pouvoir prescrire ce qu'on appelle des orthèses de redressement des orteils. Et permettre aussi de renouveler vos semelles et éventuellement des chaussures spéciales, soit des chaussures de prévention primaire, des chaussures de prévention secondaire ou des chaussures sur mesure. Voilà. Votre médecin va aussi regarder, il va vérifier aussi le statut vaccinal, savoir si vous avez bien votre vaccin antitétanique à jour, parce que si vous avez une plaie avec une pointe rouillée et sale, il faut éviter le tétanos. Donc, en cas de plaie, il va élaborer un protocole que suivront les infirmiers à domicile. Et en cas de plaie compliquée par une infection ou d'une plaie dont il a l'impression que c'est une plaie d'allure vasculaire, il organisera de vous faire entrer en hospitalisation dans un milieu spécialisé pour vous prendre en charge. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire d'autre encore ? Il faut dire que la neuropathie et l'artérite... Pour Pascal, qui voulait savoir quelle était un peu la fréquence d'apparition de toutes ces pathologies-là, sont les deux éléments, neuropathie et artérite, sont les deux éléments majeurs de l'évolution du pied diabétique. La neuropathie, elle touche à peu près 40% des patients diabétiques. L'artérite, elle va toucher 50% de ceux qui présentent un ulcère. Donc le pied diabétique va compliquer l'évolution du diabète dans 20 à 25% des cas. Donc il est à l'origine de 70% des amputations chez le diabétique, en sachant que le tabac multiplie énormément le risque d'une artérite et donc d'évoluer vers une amputation. Donc l'infection et l'artérite influencent la prise en charge. Ce sont elles qui... plus la neuropathie, vont rendre long la prise en charge de ce pied diabétique. Mais il faut savoir que l'équilibre glycémique, le respect des soins et surtout le respect de la décharge du pied, c'est-à-dire ne plus mettre le pied par terre, ne plus appuyer dessus, sont les éléments primordiaux pour faire évoluer une plaie du pied diabétique vers la guérison. Donc voilà ce que les patients qui nous ont contactés dans la semaine ont posé comme question et nous avons été très heureux de pouvoir y répondre. Nous espérons que nous avons satisfait leur demande et nous allons donc, comme de coutume, passer aux questions en live, les questions du direct. Nous remercions toujours nos internautes d'être présents, d'être nombreux, d'être avec nous et de faire vivre ces e-lives depuis un peu plus d'un an maintenant. Donc Isabelle nous demande si le suivi du pied par un podologue est prescrit par le médecin traitant et remboursé. Oui, si on vous le prescrit, il va être remboursé. Vous savez qu'en fonction de la classification du pied, du grade d'atteinte de pied, ça c'est le médecin endocrinologue ou le médecin généraliste qui le fait, ça c'est un temps que j'ai dû oublier dans ce que fait votre médecin traitant à la consultation quand il met les quelques minutes pour regarder vos pieds, il va aussi classifier votre pied en grade. Si vous avez un pied tout à fait sain, sans problème, il est classé en grade 1, à ce moment-là, on peut prescrire les soins de podologie, mais vous ne serez pas remboursé. Par contre, à partir du grade 2, c'est-à-dire d'une atteinte neurologique, à ce moment-là, vous allez être remboursé à 4 soins par an. Et lorsque vous avez déjà fait une plaie ou que vous faites une plaie, vous êtes remboursé à 6 soins par an, c'est-à-dire un mois sur deux. Donc, voilà ce que je peux dire à Isabelle. La prescription du podologue, oui, elle est du pédicure podologue, oui, elle est faite par le médecin. Mais le remboursement est fonction de la classification de votre pied en pied à problème ou pied encore sain, sans problème. Voilà. Dino nous dit, est-ce que c'est normal qu'en cas de poussée de glycémie, je ressens des coups d'aiguille au niveau du pied ? Je vais dire à Dino que oui, c'est possible parce qu'à partir du moment où vous êtes déséquilibré, si vous aviez déjà un peu la neuropathie, vous pouvez l'exacerber parce que tout part du déséquilibre glycémique, exacerbe les problèmes inhérents au diabète. Donc, si vous avez un déséquilibre glycémique avec déjà un début de neuropathie, il est probable, ou même un début d'artérite, il est probable que les symptômes s'exacerbent parce que vous n'êtes pas bien équilibré. À la rééquilibration des glycémies, on peut arriver à diminuer ou estomper un peu ces symptômes. Mais il faut savoir que les problèmes qui sont inhérents au diabète ont tendance aussi à évoluer pour leur propre compte. Mais l'équilibre glycémique, l'équilibre tensionnel et l'amélioration de la qualité de vie va permettre de ralentir leur évolution, soit de freiner, de stabiliser les choses à un stade qui peut être encore tout à fait acceptable. Donc l'équilibre glycémique est, si vous voulez, la pierre angulaire de la prise en charge de tous ces problèmes. Donc en dehors de tout ce qu'on peut faire de manière spécifique, il ne faut pas oublier de bien équilibrer le diabète. Et dans le pied diabétique, la décharge, et je ne cesserai de le redire, parce que ce qui fait la difficulté de la prise en charge des patients quand on les prend en charge pour le pied diabétique, c'est le fait qu'ils ne respectent pas facilement la décharge. Mais voilà, on entend aussi qu'il y a des gens qui vivent seuls, qui doivent tout faire tout seuls, et c'est beaucoup plus compliqué. Mais il faut qu'un minimum de décharge soit respecté, c'est-à-dire qu'on ne pose le pied au sol que parce que c'est nécessaire et on marche dessus que parce que c'est nécessaire et le moins possible, c'est le mieux qui y aille. Voilà, donc Nidal, lui, nous dit « La marche et l'activité physique diminuent-elles les risques des complications ?» Oui, oui, la marche et l'activité physique vont avec les traitements que vous prenez, avec l'équilibre glycémique, vont tout ceci être un conglomérat d'éléments, un conglomérat de comment est-ce que je peux dire ça, un ensemble d'éléments qui vont permettre de mieux tenir votre diabète, et plus votre diabète est équilibré, moins vite viennent les problèmes inhérents à ce diabète et les corollaires qui l'accompagnent, c'est-à-dire l'hypertension, le cholestérol. Il faut savoir que, on le dit à chaque fois, hein, qu'il y a deux types de complications. Il y a les complications qui sont inhérentes au diabète même, et c'est ce qu'on appelle l'atteinte des tout petits vaisseaux. Et pour ça, la neuropathie fait partie de cette atteinte de tout petits vaisseaux. Et celle qui va atteindre les gros vaisseaux, les gros vaisseaux qui sont les vaisseaux du cœur, les vaisseaux des jambes, et pour cela le diabète ne sera jamais un seul, il est accompagné de toutes ses cousines, hypertension, cholestérol, obésité, goutte, tabac et tout ce qu'on appelle les corollaires, donc les facteurs de risque cardiovasculaire, pour aller déléter ces artères-là. Et dans l'atteinte spécifique au diabète, j'ai oublié de vous dire que l'atteinte neurologique fait partie de l'atteinte spécifique du diabète. Voilà. Les chaussettes peuvent-elles être remboursées en pharmacie? Ça, je pense. Elles ne sont pas achetées en pharmacie, elles sont achetées souvent en parapharmacie. Et ce sont des chaussettes à mon avis, je ne crois pas qu'elles soient remboursées. Mais elles ne coûtent pas excessivement cher. Et si vous avez 3-4 paires, c'est largement suffisant. L'essentiel, c'est de bien les laver régulièrement. Voilà. Donc Arnaud, lui, nous dit « Si mon diabète est équilibré, le risque de complications de pied diabétique est-il possible ?» Peut-être qu'avec le temps, avec l'évolution, avec la durée d'évolution de votre diabète, tout peut arriver. Je ne sais pas trop quel diabète vous avez. Imaginons. On part du principe que vous avez un diabète de type 1 et qu'il est récemment découvert. On est tranquille, on sait que ce n'est pas maintenant que vous allez avoir un problème de pied diabétique. Mais dans les 20-30 années qui vont suivre, oui, on sait qu'il faut de plus en plus être très attentif aux problèmes de pied. Par contre, si vous êtes diabétique de type 2, d'emblée, on regarde bien vos pieds parce que l'histoire de votre diabète a peut-être couru pendant longtemps et à bas bruit, sans que vous ne vous en rendiez compte, et qu'au moment où votre diabète se révèle, vous avez des problèmes de pied diabétique. Donc c'est cela qu'on... C'est ce qui seront les éléments déterminants pour vous dire si, oui, vous êtes à risque là de faire un problème de pied diabétique ou pas. Après, il faut équilibrer son diabète. Hein. Et puis, tout le monde ne fait pas tout. On ne fait pas toutes les complications obligatoirement. Hein. Donc, voilà. Et le fait d'être bien suivi, et là encore, on va mettre un accent sur le suivi du diabète. Le fait d'être bien suivi permet de voir venir les choses et de les contrecarrer largement à l'avance pour éviter que les choses ne soient beaucoup plus graves demain. Donc, voilà. Soyez attentifs à votre maladie. respectez bien vos mesures hygiéno-diététiques, faites une activité physique, prenez correctement vos traitements et surtout soyez suivis de manière régulière. S'il y a deux choses qu'il faut savoir, c'est bien suivre les recommandations et être bien suivi. Le suivi permet d'anticiper sur ce qu'on voit et d'éviter que les choses n'évoluent de manière trop grave. Je pense, à mon sens, que ce sont les deux choses que vous devez retenir. Faire bien et être bien suivi régulièrement. Alors, Inchou, lui, nous dit que les brûlures de pieds sont en lien avec son diabète ou peuvent être neurologiques ou vasculaires. Alors oui, avec le temps, avec l'évolution du diabète, on peut développer des sensations de brûlure. Et quand on a ces sensations de brûlure, c'est qu'on a probablement une neuropathie diabétique. C'est plus l'atteinte neurologique que l'atteinte vasculaire. L'atteinte vasculaire donne surtout des douleurs à type de crampes et des douleurs au moment de la marche qui nous empêchent même d'avancer. On est obligé de s'arrêter, se reposer, laisser le pied, laisser la douleur disparaître et repartir. Et tous les X mètres, on a cette douleur qui revient. Ça, c'est plutôt artériel. Mais neurologique, c'est ces sensations de brûlure qui même font que quand on a le drap la nuit, quand on se couvre, ben ces draps nous gênent parce que ça exacerbe la sensation de brûlure. On a tendance à les enlever. Et oui, ça, c'est de la neuropathie. C'est en lien avec l'équilibre du diabète. Donc, il est fort probable que votre équilibre ne soit pas toujours bon et qu'au long cours, avec le temps, cette sensation de douleur commence à s'installer. On la surveille tant que vous arrivez, tant qu'elle est tolérable, on vous laisse la supporter. Mais si elle devient insupportable, on tente des médicaments. Et là, on a quand même des antidouleurs, des antidouleurs habituelles d'abord, telles que le paracétamol. On peut mettre des antidouleurs de ce qu'on appelle, nous, de palier 2. Et puis après, on va venir avec ce qu'on appelle les neuroleptiques qui marchent assez bien sur ce type de sensation. Ça peut calmer. Mais primum movens est l'équilibre du diabète. Il faut toujours équilibrer son diabète, ne pas oublier de bien équilibrer le diabète. Tout ceci permet de retarder au maximum la survenue de ces désagréments. Yuli nous dit comment faire diminuer les fourmillements des pieds. La première chose déjà, il faut commencer par bien équilibrer votre diabète. Et après avoir équilibré votre diabète parce que vous êtes allé voir votre médecin traitant, vous vous êtes plaint de cette sensation-là, il a regardé votre équilibre glycémique, il va pouvoir vous donner des conseils de prise en charge pour améliorer ces sensations de fourmillement de pied. Il va faire soit un bilan vasculaire pour voir aussi que ce n'est pas une sensation qui arrive parce que peut-être qu'avec la neuropathie vient maintenant s'installer une atteinte vasculaire. Donc, toujours rechercher les atteintes mixtes, comme ça on sait que voilà, on peut prendre en charge ceci de telle manière et l'autre de telle autre manière. Voilà, donc allez rencontrer votre médecin traitant, votre diabétologue, pour qu'il puisse faire la part sur ces fourmillements, parce que les fourmillements peuvent être l'entrée dans la neuropathie, mais aussi l'entrée dans l'artérie, dans la maladie artérielle. Donc voilà, quand c'est encore au tout début comme ça, les symptômes sont difficilement différenciables. Mais quand, si jamais vous marchez et que vous avez cette crampe et ces douleurs qui vous obligent d'arrêter, on a plus tendance à aller vers un problème artériel. Mais si vous avez des sensations de brûlure, surtout la nuit, quand vous dormez, des brûlures, la sensation de décharge électrique, de picotement, de feu sous la plante de pied, là on sait que c'est plutôt neurologique. Voilà. Samira nous demande si les chaussettes de contention sont interdites en cas de diabète. Non, pas du tout. Elles ne sont pas interdites. Si vous avez en plus du diabète une insuffisance veineuse, vous pouvez porter vos chaussettes de contention. Maintenant, si vous avez une maladie artérielle, il y a des chaussettes de contention adaptées et qui vont vous être prescrites pour les porter. Comme ça, elles n'aggravent pas la maladie artérielle sous-jacente, mais en même temps, elles arrivent à vous aider sur le plan veineux. Kadi nous dit, est-ce que le diabète peut provoquer des œdèmes des pieds? Je ne suis pas trop sûre si vous êtes très très déséquilibré, mais bon, je ne sais pas trop, les œdèmes de pied ont beaucoup d'origines, mais très très peu et peut-être pas dans le diabète. Vous pouvez avoir des œdèmes pour beaucoup de raisons. Vous avez peut-être une insuffisance veineuse, vous pouvez avoir des œdèmes parce que vous avez des œdèmes de dénutrition, vous voyez. Il y a plein de causes d'œdèmes. Il faut peut-être un peu préciser votre question, Kadi, pour qu'on puisse mieux vous orienter. Si vous êtes diabétique, je ne pense pas que le diabète entraîne d'office des œdèmes, mais avec le diabète plus d'autres maladies associées, oui, vous pouvez développer des œdèmes. Mais voilà, il faut que votre question soit un peu plus précise. Voilà, et pour terminer, puisque je suis quasi à la fin du temps qui m'est imparti, je vais répondre à Catherine. Catherine qui me dit quels sont les dispositifs pour atténuer la décharge des pieds diabétiques. Alors oui, pour réaliser la décharge quand on a une plaie, on a des chaussures spécialisées que l'on vous prescrit, des chaussures quand vous avez une plaie sur l'avant du pied qui vont occuper uniquement le talon, on appelle ça la talonnière de Baruch, et celle-ci vous permet juste de poser le talon pour pouvoir vous déplacer. Et puis si par contre la plaie de pied se trouve plutôt en arrière, plutôt dans la zone du talon, on a la chaussure de Sanital qui, elle, ferme l'avant du pied, mais libère l'arrière du pied, là où la plaie se trouve. Et puis après, il y a des dispositifs qui sont faits sur mesure pour les endroits où les plaies existent, mais ne répondent ni à la sanitale, ni à la baroque. Donc, tout ceci sont des dispositifs qu'on trouve dans les magasins d'orthopédie, les magasins de chaussures spécialisés, qu'on va vous prescrire et que vous allez aller récupérer là-bas. Et donc, ceci permettra de mettre en décharge, donc d'éviter que vous n'appuyez sur une plaie qui est en cours de traitement. Parce que si on appuie tout le temps sur une plaie qu'on traite, eh ben, on ne fait que l'aggraver, elle ne cicatrisera pas. Donc, dans ces conditions-là, c'est la raison pour laquelle, si vous voulez, on veut que vous conserviez quand même une petite mobilité, on vous met ces chaussures spécialisées que vous allez chercher dans les structures de vente de matériel orthopédique. Voilà, je cherchais le mot. C'est les structures de vente de matériel orthopédique. Voilà, j'espère que nous avons satisfait tous nos internautes aujourd'hui. Et je vous remercie d'avoir été nombreux à participer à cet e-live sur la prise en charge, comment éviter les plaies de pieds diabétiques. Nous vous remercions pour votre écoute et nous vous disons à très bientôt, à la semaine prochaine. Merci, au revoir.
Nous sommes ravis de vous avoir accompagné pendant toute cette écoute. Si ce podcast vous a plu, merci de laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. Suivez-nous sur notre page Facebook Diabète 66 en posant directement vos questions qui seront abordées dans nos prochaines émissions. Rejoignez-nous également sur notre groupe Facebook Diabétique, le groupe de discussion, pour échanger avec nos 9000 membres. Retrouvez-nous également sur Instagram et Twitter. Merci à toutes et tous pour votre écoute et à la semaine prochaine.